Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je vous remercie d'être là ce soir pour la deuxième conférence publique organisée par l'ISM, portant sur cette année, le thème étant Islam de France, Islam d'Europe. Nous avions commencé lors de la première séance par l'islam très contemporain de ces 20 dernières années, et nous allons remonter dans le temps avec l'intervenante d'aujourd'hui, puisque nous allons nous intéresser à un phénomène moins bien connu, qui est celui de la présence musulmane en France et en Europe à l'époque moderne, médiévale, moderne, et donc précontemporaine. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, Jocelyne Daclia, qui est historienne, directrice d'études à l'EHESS, qui est une historienne qui s'intéresse au temps long, donc à des périodes variées de l'histoire, depuis l'époque médiévale jusqu'à l'époque moderne et contemporaine, qui est connue pour un certain nombre de travaux et d'ouvrages qui ont été très importants. Je citerai juste quelques-uns de ces ouvrages pour ne pas faire une liste à la Prévert, et des ouvrages qui m'ont personnellement marqué. Il y a d'abord Le Divan des Rois, Le politique et le religieux dans l'islam, et le pendant qui est L'Empire des passions, l'arbitrage politique en islam, qui sont donc deux ouvrages majeurs, historiques et anthropologiques, sur l'exercice du pouvoir en islam ou dans les différents pays de l'islam. Mais Jocelyne Daclia s'intéresse aussi d'une part à la Tunisie, avec laquelle elle a des liens consubstantiels, et d'autre part, elle a dirigé ces dernières années, avec Bernard Vincent d'un côté, avec Wolfgang Kaiser de l'autre, des travaux sur les musulmans dans l'histoire de l'Europe, qui ont donné lieu à la publication de deux ouvrages collectifs. J'ai le premier volume ici, donc « Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, une intégration invisible », qui est le premier volume qui était dirigé avec Bernard Vincent, et d'autre part, le second volume qui était sur « Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, deux passages et contacts en Méditerranée ». Je lui laisse donc la parole maintenant pour qu'elle vous parle de la présence musulmane en Europe, de l'Ancien Régime au temps moderne.
Merci beaucoup, merci pour cette invitation et merci pour cette présentation et pour cette invitation. Donc, en effet, la question dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est la question des musulmans dans l'histoire de l'Europe, en vous présentant des éléments d'un chantier de recherche qui pourrait nous conduire ou qui devrait nous conduire à repenser de manière pleine tout notre rapport et notre rapport historique à la question de l'islam en Europe occidentale et des musulmans, des populations musulmanes en Europe occidentale, donc un chantier ambitieux et dont on voit qu'il commence à se mettre en place dans différents pays de l'Europe occidentale. Donc, si vous le permettez, je voudrais partir d'une situation qui est tout à fait contemporaine, en fait, et pas historique, pour illustrer la situation qui me paraît avoir été celle des musulmans en Europe occidentale durant la plus grande partie de l'époque moderne, depuis, disons, la fin du Moyen-Âge. Si vous allez aujourd'hui dans un restaurant à Paris, donc une situation très banale, très triviale, quel que soit ce restaurant, hein, qu'il s'agisse d'un restaurant de cuisine française, de cuisine japonaise, italienne, il y a de fortes chances, si vous passez une tête en cuisine ou si vous voyez ce qui se passe en cuisine, il y a de fortes chances pour que les cuisiniers, les employés de cuisine soient d'origine sud-asiatique et même souvent, plus précisément, tamoule. La main-d'œuvre tamoule, sri-lankaise, est particulièrement présente, fortement présente dans les cuisines des restaurants à Paris. Or, jamais dans les représentations que les Français ont de leur immigration, cette réalité qui est de plus en plus massive n'est prise en compte. C'est-à-dire qu'il y a en France, et notamment à Paris, donc, une population sud-asiatique qui est de plus en plus nombreuse, qui est enracinée, dont les enfants sont scolarisés. Il y a un quartier de Paris qu'ils habitent ou qu'ils occupent massivement dans le nord de Paris, mais ils n'existent pas en tant que groupe de référence dans le débat civique ou politique, parce que c'est un groupe dont on ne parle pas et qu'on ne voit pas. J'ajouterais qu'ils défilent même souvent le 1er mai. Donc les étrangers dont on parle dans le débat français sont maghrébins, sont africains, subsahariens, à la rigueur turcs, ça dépend des régions de France, et donc ils sont majoritairement musulmans. Et encore, on ne voit pas, par exemple, qu'il y a de plus en plus une émigration non pas maghrébine, mais égyptienne, par exemple, à Paris, notamment dans le secteur du bâtiment. Il y a donc, et c'est le point qui m'intéresse, il y a donc un décalage entre la façon dont une société se représente ses étrangers et son immigration et cette réalité elle-même. Par conséquent, qu'est-ce que c'est que voir ? Qu'est-ce que c'est qu'un groupe visible ? Qu'est-ce qui fait qu'un groupe acquiert une visibilité ou non ? Et bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'un étranger ? Comme l'exprimait le fameux sociologue allemand Simmel dans un texte fameux sur l'étranger, l'étranger a aussi une position de l'intérieur. Pour qu'on puisse le dire étranger, il faut déjà qu'on le reconnaisse comme étant parmi nous, donc étant de l'intérieur. C'est donc un paradoxe, finalement, que de s'interroger sur un étranger invisible et un étranger qui est absent de notre mémoire par surcroît. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit. On sait qu'il est là, mais on n'en parle pas. Il fait partie de la vie du groupe, de la communauté englobante, mais on ne l'évoque pas. Alors, un exemple, donc, par excellence, de ce type de paradoxe social me paraît être le cas des musulmans en Europe avant le XIXe siècle, ou en tout cas avant l'instauration d'un rapport colonial sur des nations musulmanes. Longtemps, vous le savez, l'historiographie tant européenne que maghrébine, par exemple, a considéré que les circulations de musulmans en Europe demeuraient un phénomène exceptionnel avant le XIXe siècle. La plupart des livres sur cette question de l'immigration ne font pas remonter l'immigration musulmane plus haut que la fin du XIXe siècle, quand on a eu une immigration coloniale, notamment de travailleurs qui partaient dans les usines du Nord, qui partaient dans les mines de l'Est, etc., et qui étaient souvent d'ailleurs recrutés par des compagnies françaises au Maroc, notamment, ou encore en Kabylie. Donc c'est la fin du XIXe siècle. Puis ensuite, évidemment, il y a eu l'impulsion de la Première Guerre mondiale, mais c'est de cette période charnière du XIXe et du XXe siècle qu'on date généralement la présence d'une population musulmane en Europe. Et pour les périodes antérieures, on considérait qu'il s'agissait en quelque sorte d'accident, ou bien on mettait l'accent sur telle ambassade fameuse à la cour de Versailles, etc. Encore très récemment, un gros ouvrage collectif édité en France sous la direction de Mohamed Harkoun en 2006 concevait pour l'essentiel cette présence de musulmans comme étant essentiellement transitoire, donc à l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle. L'accent dans ce livre, comme dans d'autres, va être mis donc sur des ambassades d'États musulmans, et ce n'est que par quelques cas exceptionnels, comme ça, de transfuges, qu'on va évoquer la possible intégration de musulmans à la société française, notamment. Donc une sorte de curiosité un peu exotique, et puis à dose homéopathique. C'est la recherche récente, principalement sur l'Europe du Sud, qui nous a amené à reconsidérer peu à peu cette question, et puis également l'historiographie de l'histoire globale, un rapport plus mondial et plus global à l'histoire de manière générale, amenant à voir l'histoire comme des phénomènes réciproques et non pas comme des phénomènes uniquement sous l'impulsion de l'Europe, disons. En tout cas, donc pour commencer à vous expliquer cette réorientation historiographique, il y a eu un surcroît d'intérêt pour les phénomènes de captivité et d'esclavage en Méditerranée, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, qu'on a vu désormais, qu'on voit désormais comme des phénomènes symétriques et réciproques, donc l'esclavage ou la réduction en captivité, la prise d'otages et de captifs de part et d'autre de la Méditerranée. On sait maintenant que c'est un phénomène absolument réciproque et symétrique et qu'on a commencé à étudier principalement en Italie et en Espagne. En Italie ou en Espagne, où on a mis en évidence en particulier une forte présence féminine, un esclavage féminin, un esclavage domestique, donc des femmes domestiques, venues soit du Maghreb, soit des Balkans. Beaucoup viennent donc des Balkans, sont des musulmanes qui viennent des Balkans. Et pour des femmes, l'horizon, disons, le plus évident, c'est d'avoir des enfants de son maître et puis d'être convertie au christianisme, d'être baptisée. Et puis, bien sûr, la question des galériens dont je reparlerai tout à l'heure. Une certaine attention s'est portée aussi sur le phénomène des renégats européens, un phénomène dont vous avez sans doute entendu parler par le livre de Bartholomé et Lucille Benassar, « Les chrétiens d'Allah », un livre paru à la fin des années 1980 et qui a eu un certain écho et qui montrait les parcours de ces jeunes Français ou Européens qui, soit de manière volontaire, soit parce qu'ils avaient été réduits en captivité, se convertissaient à l'islam et puis faisaient une carrière au sein des sociétés musulmanes bordant la Méditerranée. La commémoration récente de l'expulsion des Morisques en 1609 a aussi consacré ou renforcé un intérêt pour la question d'une présence de musulmans ou de musulmans éventuels, potentiels, dans une société européenne. On sait qu'une partie de ces Morisques expulsés d'Espagne sont restés en France. Sont restés en France par milliers et pour certains sont demeurés longtemps visibles dans le paysage social. Mais en dehors de l'Italie et de l'Espagne ou encore de Malte, cette enquête sur l'intégration ou l'assimilation possible de musulmans est encore très peu poussée. On sait que le cas de la Provence, par exemple, en France, est un cas qui était assez semblable à celui de l'Italie, avec des situations à Marseille, notamment très proches de celles de Naples ou de Livourne. C'est-à-dire qu'à Marseille, il y avait un arsenal des galères. Dans les galères, sur les galères, il y avait à peu près un cinquième de Turcs, c'est-à-dire de musulmans, et donc une forte population musulmane présente sur les galères, mais présente aussi, du coup, en ville, puisque les galères ne sont pas sur mer en permanence, et notamment l'hiver, elles restent à quai, et les galériens avaient le droit de travailler en ville, soit qu'ils s'occupent à des petits métiers sur le port, dans des baraquements, des petits métiers de revente, de tricot, enfin il y avait des activités plus ou moins spécialisées et plus ou moins licites, et soit qu'ils travaillent chez des particuliers comme cuisiniers, comme domestique, et donc il y avait une présence de ces Turcs dans la ville, y compris pour des travaux municipaux ou employés dans des travaux de savonnerie. On sait qu'à Livourne, ils étaient employés pour des travaux de voirie également. Donc la présence de ces musulmans dans la ville n'est pas du tout quelque chose de contemporain. C'est quelque chose, c'est un phénomène auquel étaient habitués les gens, notamment qui habitaient dans des villes de galère. Le reste de la France, donc j'ai évoqué le cas de Marseille-Toulon, il faut voir que les villes de galères, ça peut concerner également Dunkerque par exemple. On a beaucoup de témoignages sur les galériens turcs de Dunkerque, donc tout à fait à l'opposé de la Méditerranée. Donc le reste de la France, je le disais, est a fortiori encore moins concerné par ce courant historiographique de redécouverte d'une présence musulmane en Europe. En effet, je distinguerai, disons, deux types de présence. J'ai parlé des galériens. Les galériens sont des prisonniers d'État, donc encadrés par des conventions d'État à État. Leur présence est enregistrée sur des rôles, des registres. On sait en principe qui est détenu et où. Donc c'est une présence officielle, réglée par des accords diplomatiques. Normalement, il aurait reconnu, dans une certaine mesure, un droit de culte, un droit de pratiquer leur religion. On sait qu'en France, ça a suscité plus de problèmes qu'en Italie, par exemple, ou à Malte, où les galériens avaient des imams, qui étaient d'ailleurs souvent leurs représentants communautaires, qui avaient une possibilité de culte tout à fait reconnue. Donc c'est quelque chose qui est plus difficile en France. Mais il y a une autre forme de présence, et je pense que notre enquête collective, justement, a poussé justement la visibilité de cette question. Il y a une présence dispersée dans la société française, dans l'espace géographique français. Il y a une dissémination, soit de petits groupes, de familles, soit d'individus isolés, qui sont présents donc de manière éparse, un peu sur tout le territoire. On ne sait pas très bien selon quelle logique. Bon, on peut essayer de comprendre. Quand on regarde de près, on se rend compte que, par exemple, il y a pas mal de mentions de Turcs dans des villes comme Nancy, donc très loin de la Méditerranée ou des mers. Mais on se rend compte que c'est des villes de garnison, que donc souvent on a affaire à des gens qui étaient employés comme soldats, comme militaires. Ou bien il semble que certains d'entre eux aient été présents dans des villes qui correspondent à des villes de passage de la chaîne des galères. Bon. Donc cette présence dispersée, c'est peut-être ça qui est le plus nouveau, qui est le plus intéressant finalement à saisir. Pourquoi est-ce qu'on a dans des villages comme ça la découverte d'une trace d'un musulman, d'un turc, selon la terminologie de l'époque? De longue date, on sait qu'on a dans des monographies de villages ou de régions ou de villes des provinces françaises une mention ici ou là d'un Turc converti ou d'un mort qui a demandé le baptême dans des toutes petites villes. Et l'historien local ou l'érudit local va présenter ça comme une sorte de curiosité, comme un élément exotique et évidemment comme une exception. Mais si on prend conscience qu'on a au moins 200 ou 300 monographies de ce type qui mettent en évidence un phénomène de cette nature, est-ce qu'on peut toujours considérer qu'il s'agit d'exceptions? Donc cette population nébuleuse, dispersée, de convertis d'hommes ou de femmes baptisées originaires de pays islamiques n'avait pas en tout cas été constituée en objet d'étude. De même, donc, je l'ai dit, pour les galériens, on a des études tout à fait importantes et intéressantes, comme celle d'André Zisberg, qui a bien étudié la présence des Turcs aux galères, qui a étudié les conditions de vie épouvantables des galériens de manière plus générale, la question de l'hygiène, etc., mais qui ne s'est pas intéressé à la liberté éventuelle de culte, parce que c'est des questions qui attiraient moins l'attention dans les années 80 qu'elles ne le font à l'heure actuelle, où se pose évidemment dans le débat civique la question d'une reconnaissance de plein droit de l'islam dans la cité. Alors pour un cas comme l'Angleterre, à titre personnel, je me suis intéressée aussi à l'Angleterre et à la Grande-Bretagne. Il n'y avait pas de galères, donc il n'y avait pas de registre. Cette présence des musulmans au début de l'époque moderne, elle est encore plus difficile à documenter. Et si nous avons aujourd'hui un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent au rapport de l'Angleterre ou du Royaume-Uni à l'islam, il s'agit plutôt de littérature, il s'agit moins d'histoire. Il y a donc une difficulté évidente à voir ces phénomènes de circulation et d'intégration et à les voir comme des phénomènes réciproques. Des gens venus des pays d'islam circulent en Europe, libres ou contraints, captifs, esclaves, tout comme des gens d'Europe occidentale circulaient dans le monde islamique. Alors je dis bien Europe occidentale parce que à cette époque, une grande partie donc de l'Europe orientale, centrale, faisait partie de l'Empire ottoman c'était une problématique évidemment tout à fait différente. Et par ailleurs, c'est principalement en Europe occidentale que se pose aujourd'hui la question d'un débat sur l'intégration des musulmans. Donc c'est plutôt cette focalisation géographique qui va m'intéresser. Vous aurez compris aussi que ce qui m'intéresse, c'est de m'interroger sur un phénomène global, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement au contact proche du monde islamique que se produisent des phénomènes d'échange et de circulation. Bien sûr, on ne va pas nier qu'une ville comme Venise a dû accueillir plus de Turcs, de musulmans, qu'une ville comme Londres, par exemple, connaître plus de phénomènes d'intégration de populations orientales. Mais de même que nous étudions aujourd'hui la manière dont des colonies de Britanniques se sont acclimatées dans l'Empire ottoman, s'y sont enracinées des Britanniques ou encore des Vénitiens, de la même façon, on doit se demander quelle était la part et la vie de marchands ottomans à Londres, par exemple, car on en trouve parfaitement des traces, comme on trouve des traces de marchands marocains à Londres, par exemple. Donc ces phénomènes de créolisation, ces phénomènes de circulation, il faut les voir comme étant réciproques. Et donc, en l'état actuel de la question, il est difficile d'apporter des chiffres précis, mais à titre personnel, moi qui ne suis même pas une spécialiste de l'Europe, en travaillant pendant quelques années dans la documentation, j'en ai repéré plusieurs centaines, au moins désignées par un nom, par un surnom, donc même pas une globalité sur des registres. J'ai pu en repérer donc plusieurs centaines, parfois une simple mention, donc un nom ou deux lignes. Qu'est-ce qu'on peut faire de traces aussi fragmentaires et comment les faire parler ? Au-delà de ce repérage, on entrevoit des dizaines de milliers de musulmans, au moins sur la période du XVIe, XVIIIe siècle, qui m'est la plus familière. Alors maintenant, comment aborder cette question ? Je dissocierai, disons, quatre plans, quatre entrées possibles dans cette question de l'intégration de musulmans en Europe à l'époque dite moderne, donc disons à partir du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ces quatre niveaux d'approche se renforcent finalement dans la difficulté. Une première difficulté, c'est cette opacité historiographique que je viens de souligner. Cette question, donc, pendant longtemps n'a pas été pensable. L'hypothèse d'une intégration de populations islamiques en Europe occidentale n'était presque jamais prise en compte. Un exemple. Les archives britanniques nous apprennent qu'à Londres, en 1532, deux femmes entrent à la Domus Conversorum, qui est une institution créée au Moyen-Âge pour la conversion des Juifs au christianisme. Elles ont pour nom Aïssa Poudéouïa et Omelfeit Issia. Là, je lis la transcription du document. Et elles ont pour marraine, le jour de leur baptême, la reine Catherine d'Aragon et sa fille. Bon, ça, peu importe. Dans les années 1930, l'historien Michael Adler pointe ce cas et il les définit tout naturellement comme juives. Certes, leurs noms lui paraissent avoir une consonance un peu bizarre, possiblement orientale ou mort, souligne-t-il, donc des juives orientales. Mais aujourd'hui, il apparaît que leur nom invitait à aller plus loin encore et à se poser la question de savoir si elles n'étaient pas musulmanes. L'une d'entre elles, en effet, porte très clairement le nom d'Aïcha, Aïcha Poudéouïa, Aïcha, l'épouse préférée donc du prophète Mohamed, et la deuxième porte un nom très approchant, qui est proche de Assia, Issia, et en plus avec la forme Omelfeit, mère d'eux. Alors, on ne peut pas trancher sur le fond. Une universitaire américaine reprend ce même exemple en 2006, et pour elle aussi, à l'évidence, il s'agit de juifs. Je ne peux pas trancher sur le fond, on n'a pas les moyens d'aller plus loin, et d'affirmer que ces deux femmes étaient musulmanes. En tout cas, une base onomastique ne nous permet pas de l'affirmer, mais l'absence de l'hypothèse, au moins en soi, est un problème troublant et souligne un problème, et ce donc aussi bien dans les années 1930 qu'aujourd'hui. Pour être juste, cette hypothèse n'a pas toujours été exclue de la perspective de tous les historiens. En 1921, notamment, il y a un historien français, Jules Matorez, qui a publié un gros ouvrage sur les étrangers en France sous l'Ancien Régime. Et il consacre une partie importante de cette étude à ce qu'il appelle une population orientale. Il inclut dans cette étude aussi bien les Arméniens ou les Grecs et les Juifs que les anciens Sarrasins, descendants des Arabes qui avaient conquis la France, ou les Turcs modernes. Alors, il conclut à un apport restreint des Turcs, c'est-à-dire des musulmans, dans la population française, et il souligne, je cite, « leur capacité limitée à s'élever dans l'échelle sociale ». Donc en cela, il est prisonnier d'une vision qui est une vision condescendante, hein, très coloniale, mais il a parfaitement vu la question. Et ce qui est intéressant, c'est que cette visibilité donc, d'un possible apport de population orientale, cette visibilité, elle a régressé par la suite parmi les historiens. Dans l'entre-deux-guerres, on la voit régresser. Cette régression historiographique, je pense qu'elle s'explique par un durcissement du rapport colonial dans l'entre-deux-guerres avec le centenaire de l'Algérie, de la colonisation de l'Algérie, et puis par une censure, une autocensure de plus en plus forte concernant aussi les pratiques d'esclavage en Europe. C'est-à-dire qu'une grande partie de cette histoire est une histoire d'esclavage, d'esclaves, une histoire de privation de liberté. Et l'Europe du XXe siècle répugne de plus en plus à se concevoir comme esclavagiste, alors que jusqu'aux années 1880, disons, on a un certain nombre d'études qui portent sur la présence d'esclaves en France ou dans d'autres pays d'Europe occidentale, sur des marchés d'esclaves, par exemple. On a différentes études. De la même façon, on a beaucoup de travaux d'érudits locaux dans différentes provinces françaises, en Bourgogne ou dans les Pyrénées, qui vont produire des articles sur une cheminée sarrasine, enfin, sur des traces d'une présence sarrasine, donc arabe, en France, et ce fantasme sarrasin ou cette référence sarrasine s'estompe et disparaît quasiment par la suite. Bon. Donc ça, c'est un problème d'opacité historiographique. Un deuxième motif d'invisibilité de cette question sera non plus historiographique, mais documentaire. Pourquoi on ne les voit pas ? C'est parce que souvent, ils ne sont pas visibles dans la documentation, généralement parce qu'il y a des changements de nom, des changements onomastiques. Par exemple, dans le cas des deux femmes que j'ai mentionnées, Aïssa et Issia, l'intégration, le baptême, va être synonyme de changement de nom, de christianisation du nom d'usage. Il y en a une qui devient, je me souviens, Catherine et l'autre Marie, il me semble, de mémoire. Et donc, les gens disparaissent de la documentation, même si souvent il reste un élément de leur nom qui les rattache à une origine musulmane. Qu'il y ait eu un baptême effectif ou non, c'est une autre question, mais au début de l'époque moderne, au XVIe siècle, disons, l'assimilation de ces étrangers d'origine musulmane passe généralement par un changement onomastique et par l'adoption d'un nom d'usage chrétien. D'où donc une évaporation documentaire et une plus grande difficulté à les voir. Ensuite, on voit que les choses évoluent au XVIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle notamment. Il m'apparaît que le nom de naissance est plus fréquemment associé à un nom chrétien. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup dans la documentation un système de double nomination. On va rencontrer des Charles Ali ou des Nicolas Mustapha. J'ai trouvé un Henri Chérif en Flandre. Un Paolo Ali en Suisse. Et plus tardivement encore, on observe que le nom musulman peut être mentionné seul, sans nom chrétien, y compris d'ailleurs pour des individus qui ont été baptisés, qui ont été convertis au christianisme. Là, je pense par exemple à un Mustapha Ara dans les années 1720 à Paris, qui est même un ancien officier, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, et donc nécessairement chrétien. Donc, il tient un cercle de jeu fréquenté par la bonne société, même fréquenté, je crois, par le dauphin, donc dans les années 1720, et bien que baptisé, il conserve son nom de Mustapha A. Donc le nom de naissance turque, là, est conservé. Est-ce qu'il faut y voir, dans cette période du XVIIIe siècle, le début d'une sécularisation de la société qui va moins confondre qu'avant intégration et baptême? Est-ce qu'il faut y voir l'effet d'une ethnicisation de cette société, puisque, converti ou non, on va conserver son nom de naissance, on va conserver une identité native? En tout cas, la raréfaction progressive de l'esclavage, l'extinction progressive des galères et la réduction significative de la guerre de course de l'activité corsaire, donc au fil de l'époque moderne, avec le développement de relations diplomatiques entre les États, font que la fin de cette période est plutôt caractérisée par des circulations libres et des circulations d'hommes libres. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de musulmans, ils sont plus visibles, ça ne veut pas dire qu'il y en a plus. Le début de la période que j'envisage, là, surtout le XVIe siècle, avec une grande intensité de la course, des guerres de course, sans doute correspond à l'intensité maximum de ce brassage de population. C'est un phénomène sans doute plus important quantitativement dans ce moment, mais qui est moins visible pour les raisons de mutation onomastique que j'ai mentionnées. Néanmoins, et je crois que c'est important de souligner, même à la fin du XVIIIe siècle, même dans les premières années du XIXe siècle, on se rend compte qu'il y a des individus qui ont dû continuer de porter un nom chrétien ou européen sans pour autant être baptisés. Là, je mentionnerai l'exemple à Montauban, au tout début du XIXe siècle, d'un sieur Stefani, donc un nom italien, qui est un comédien. C'est un comédien qui est par ailleurs un ancien militaire et qui, vers l'âge de 60 ans, se déclare musulman et demande le baptême à la prière donc, de sa femme française, de son épouse française. Ce qui veut dire qu'il a pu se marier en France sans être baptisé, ce qui est tout de même un problème. Bon, il est vrai que ça s'est peut-être passé pendant les années de la Révolution française. Donc on en vient du coup à une troisième explication possible de l'invisibilité de ces personnages, leur stratégie éventuelle pour se fondre dans le décor, pour se faire invisible, donc comme ce monsieur Stefani, qui est resté en France une vingtaine d'années, comme militaire, puis comme comédien, on ne sait pas ce qu'il a fait entre les deux, mais en tout cas, qui était musulman, en portant un nom italien. Alors, stratégie, c'est un mot qui me gêne toujours un peu, parce qu'il suppose une certaine capacité d'action, qui n'est pas toujours si effective que nous aimerions le penser et le montrer. On a souvent affaire, en réalité, à des gens qui ont été ballottés par la vie, qui sont donc d'anciens captifs, ou des gens qui fuient leur pays parce qu'ils y ont commis un crime, par exemple, et qui donc ont une capacité d'action qui est tout à fait limitée. Donc parler de stratégie, disons qu'il semble souvent adopter un profil bas, effaçant leur origine islamique, ne la mettant pas en avant, ce n'est pas toujours le cas. Les autodéclarations comme musulmans vont devenir beaucoup plus fréquentes et manifestes au XVIIIe siècle, notamment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. J'ai dit tout à l'heure que ça posait de moins en moins de problèmes, justement, d'assumer un nom turc, un nom musulman, un nom arabe dans cette période. Il est vrai aussi que c'est une période de mise en place d'un système de police, le XVIIIe siècle, de mise en place de contrôle des identités qui explique qu'il y ait plus de fixisme aussi, de plus de fixité du nom et des autodéclarations identitaires dans cette période. C'était l'ensemble de la population qui pouvait changer de nom au cours d'une vie. Les gens pouvaient changer de nom, ne pas porter exactement le même nom à 50 ans et à 20 ans. En Angleterre, dans cette période de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, disons, on voit beaucoup de musulmans qui se déclarent tels à l'occasion de procès, notamment. Ils demandent à jurer sur le Coran lorsqu'ils sont en procès, lorsqu'ils sont devant une cour de justice. Et puis on voit aussi des chrétiens orientaux qui pourraient très bien jouer, disons, de leur identité chrétienne, mais qui vont se turquiser d'une certaine façon, qui ouvrent des coffee shops, qui ouvrent des salons de thé, des salons pour fumer, etc., et qui vont afficher, par exemple, un turban comme enseigne, donc en jouant d'une sorte d'ambiguïté sur l'islam. Il faut aussi observer qu'on a un phénomène d'orientalisation de manière plus générale dans cette période, c'est-à-dire que toute une série de personnages originaires du monde islamique, pas nécessairement du Levant, mais du monde islamique de manière générale, vont jouer d'une forme d'orientalité, si bien qu'on ne sait pas, on ne sait plus s'ils sont exactement juifs, grecs, arméniens, maronites ou turcs au sens de musulmans. Et donc là, ça soulève une quatrième question pour aborder la question de l'invisibilité des musulmans. Qu'est-ce qu'une société rend ou non possible à tel moment de son histoire? Qu'est-ce qu'elle accepte de voir ou de ne pas voir, et quels sont les arrangements possibles? Oui, le point remarquable que je voudrais souligner, c'est la tolérance qui semble entourer, la tolérance sociale qui semble entourer certains brouillages identitaire. Je prendrai rapidement un exemple que j'emprunte à l'historien Claude Quettel, qui a fait une étude sur la chasse aux faux sorciers à la fin du règne de Louis XIV. Et notamment, à l'occasion de cette chasse aux sorciers, on arrête un nommé Baptiste, donc un prénom typiquement de converti, Baptiste, qui se dit turc, qui s'habille en arménien, mais qui se dit turc baptisé, et qui voulait, je cite, qu'on le crût bon catholique. Par ailleurs, Baptiste exerce la sorcellerie avec une tige couverte de caractères hébraïques. Donc là, on a une espèce de syncrétisme absolu. Donc différentes références identitaires cumulées sous le signe de l'orientalité. Et apparemment, ça lui permettait d'avoir pas mal de clients. Donc, comment expliquer qu'il n'y ait pas eu plus d'indices d'une intolérance sociale à l'égard de tous ces Turcs ou morts qui, de manière certes plutôt capillaire que massive, hein, on n'a pas affaire à des communautés constituées, sauf dans le cas des galères, mais de manière capillaire, ces gens venaient s'intégrer dans la population de tel village ou de telle ville. Il n'y a pas d'incident grave, massif, disons, attesté par des archives judiciaires ou municipales. On a un massacre de Turcs à Marseille en 1620, et encore, il n'est pas lié à des problèmes de cohabitation dans la ville. Il est lié à un problème diplomatique qui se passe d'ailleurs en mer avec la régence d'Alger. Donc ce sont des épisodes très rares, ces épisodes de colère contre les musulmans, contre les Turcs, au moins jusqu'au, disons, au milieu du XVIIIe siècle. Ce n'est pas une garantie, évidemment, d'intégration harmonieuse. Ça ne veut pas dire que tout se passait bien, parce qu'on n'a pas de traces que ça se passait mal. Mais ce qu'on doit constater, c'est qu'il y a tout de même une présence au long cours de ces personnages, et donc au moins une reconnaissance d'un rôle social, d'une fonction sociale, et un hiatus très fort entre un discours religieux, idéologique, politique, qui est extraordinairement hostile à l'égard des Turcs, donc discours qui se tenait sur un plan théologique, sur un plan diplomatique. Ça entre en contraste avec cette intégration invisible de centaines ou de milliers de musulmans dans ces régions. Alors, dans quel domaine, rapidement, est-ce qu'on observe cette coexistence? À quelle catégorie socio-professionnelle est-ce qu'appartenaient ces musulmans? Pour aller rapidement, parce que ça, développer prendrait vraiment beaucoup de temps, et je voudrais mettre l'accent sur ce problème de pourquoi on n'a pas vu. On pourrait penser en premier lieu qu'ils étaient dans des positions marginales, dans des situations marginales, et effectivement, beaucoup d'entre eux étaient présents dans des métiers du spectacle, dans des métiers des arts de rue. J'ai cité tout à l'heure un comédien. Il y avait des acrobates, des lutteurs, lutteurs turcs, acrobates. Beaucoup de Marocains sont acrobates. J'ai même trouvé une femme à Londres en 1700 qui dirigeait une compagnie d'acrobates à Londres, une femme marocaine. Au début du 19e siècle, on sait que beaucoup d'acrobates du sud marocain étaient présents à Paris. Présence marginale, là ça se discute aussi, les mendiants, beaucoup de mendiants sont originaires du monde islamique, mais la mendicité est déjà une forme de métier, c'est déjà une forme d'intégration sociale, parce que on fait beaucoup la charité aux nouveaux convertis, aux nouveaux baptisés, et donc on a des Turcs baptisés qui font quasiment le tour de France, qui reçoivent des aumônes des municipalités. Les municipalités les transcrivent dans leur registre, dans leur compte, hein, leur budget. Et donc, c'est comme ça qu'on en a la trace. Et on sait aussi que certains se convertissaient plusieurs fois pour pouvoir bénéficier à chaque fois, disons, de cadeaux, de la manne, de parrains qui les soutenaient, etc. Bon, donc il y a tout un business, là, du baptême et de la mendicité. En fait, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, les traces, les indices les plus nombreux que nous ayons concernent des militaires, des soldats. C'est peut-être aussi parce que l'armée tient beaucoup de registres et que donc c'est plus facile d'en avoir une indication. Mais ce qui me paraît encore plus intéressant et important, c'est que beaucoup d'entre eux pratiquent la médecine, ou sont apothicaires, ou sont chirurgiens. Ça me paraît intéressant et important, parce qu'on parle toujours d'un prestige de la médecine arabe au Moyen-Âge, et puis d'un déclin ensuite de la médecine arabe, comme d'un déclin scientifique, disons, du monde arabe à l'époque dite moderne, alors qu'on se rend compte qu'il y avait une forte demande en France, mais aussi en Angleterre, en Italie, pour une médecine justement arabe ou turque, et que ces personnages, qui souvent n'étaient même pas médecins au départ, hein, pouvaient comme ça gagner leur vie en prétendant soigner à la mode turque ou utiliser des remèdes turcs. Ça, c'est le principe de la médecine exotique dont on pense toujours qu'elle va mieux marcher que la médecine qu'on connaisse, quelque chose qui demeure très juste aujourd'hui. En tout cas, on rencontre pas mal de ces médecins dans ces contextes d'Europe occidentale. Je citerai ici rapidement le cas d'un Mehmet d'Alger, par exemple, au début du XVIIe siècle, qui est le fils d'un simpliste, c'est-à-dire d'un apothicaire d'Alger, qui est fait prisonnier sur des galères lors d'un voyage en mer, qui passe plusieurs années sur les galères espagnoles, puis qui est délivré au cours d'une bataille, il se retrouve aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ne lui plaisent pas, le protestantisme ne l'attire pas trop, il passe en Angleterre, il fait valoir qu'il a envie de se convertir au christianisme et il fait traîner la chose. Et finalement, on le retrouve à Paris, où il pratique la médecine, où il a des clients très, très chics, qui font partie du Parlement de Paris, il a des protections à la cour de France, et il finit par être embêté par les représentants de l'ordre des médecins, disons, pour exercice illicite de la médecine, et comme par hasard, c'est le moment où il choisit de demander le baptême, et il est catéchisé par Palma Caillé, qui est le précepteur d'Henri IV. Bon, donc c'est pour vous dire que certains de ces personnages pouvaient être vraiment très visibles dans le paysage. Et puis, donc rapidement, beaucoup d'entre eux sont également visibles dans le service domestique, donc le travail domestique, comme valet, comme cuisinier. Beaucoup de femmes, évidemment, pour le travail domestique, ou des demoiselles de compagnie. Mais tout ça reste une présence qu'on ne perçoit jamais comme un ensemble cohérent, comme une présence communautaire, par contraste notamment avec la présence des Juifs. Alors, bon, je n'ai pas les moyens d'une comparaison théologique du judaïsme et de l'islam, et ce n'est pas notre propos ce soir, mais je voudrais suggérer peut-être une raison, un ensemble de raisons foncièrement religieuses à cette position paradoxale de l'islam invisible, telle que je l'ai observée notamment en France ou en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, on accole donc toujours ensemble les Juifs et les musulmans. Donc, on met dans un même plan les trois monothéismes. Il y aurait les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Alors que, bon, à l'époque, dans ces périodes, évidemment, on n'était pas dans un même plan. les hommes d'église de l'époque moderne évoquaient à part, bien évidemment, les juifs et les musulmans, mais ils les évoquaient souvent ensemble. C'était les infidèles, et les infidèles qu'il fallait convertir. Donc on était dans une optique de conversion. Mais si on regarde dans le détail, les positions assignées aux juifs et aux musulmans n'étaient pas du tout les mêmes. Dans une optique théologique et politique, ce n'étaient pas les mêmes. Une première remarque qu'on peut faire, si vous y pensez, vous avez peut-être visité des synagogues du côté d'Avignon, dans le canton venaissin, il y a des lieux de culte juifs également qui ont été récemment réhabilités à Rouen, par exemple. Donc il y a une présence architecturale, disons, du judaïsme médiéval ou moderne en France. Alors que vous pouvez toujours essayer de visiter une mosquée du XVIIe siècle en France, c'est quelque chose de quasiment impossible, même si nous avons quelques traces, malgré tout, tangibles d'une présence de musulmans en France. Donc les seules mosquées dont on a une trace, qui est une trace essentiellement documentaire, ce sont les lieux de culte réservés aux galériens, peut-être un lieu de culte plus informel pour les galériens à Toulon. On a à Villefranche-sur-Mer une stèle qui réfère à un local pour les musulmans. Donc tout ça est quelque chose de très discret, voire informel. Il en est de même pour les lieux d'inhumation. Il y avait nécessairement des lieux d'inhumation pour ces musulmans. Et d'ailleurs, on en a une trace indirecte, puisque on sait que dans les mémoires des protestants, ils écrivaient souvent que de manière discriminatoire et vexatoire, on les inhumait avec les Turcs. Si vous vous reportez à des mémoires de protestants, vous aurez ce type de témoignage. Ce qui veut bien dire qu'il y avait des lieux d'inhumation pour les musulmans, mais il ne reste pas pour ces périodes de cimetières qu'on puisse visiter aujourd'hui. Donc les galères pouvaient être le lieu d'un culte musulman reconnu. Pour les autres, ceux qui étaient présents de manière comme ça un peu dispersée, discrète, il n'a pu y avoir de culte musulman que dans le fort intérieur, de manière dissimulée, ou alors avec une tolérance tacite du milieu social environnant, mais sans statut public reconnu, à la différence, malgré tout, du judaïsme, dans une certaine mesure au moins. Alors, je ne suis pas en train d'essayer de dire que les juifs étaient mieux traités que les musulmans. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un enjeu de visibilité dans l'espace public. Et là, deux points me paraissent décisifs. Le premier est théologique, c'est-à-dire que le christianisme se veut un dépassement du judaïsme. Les juifs doivent être convertis, mais ils sont dans une position d'antériorité, en quelque sorte, qui leur assure une certaine légitimité de leur présence. Une présence qui est irritante, une présence qui donne lieu à toutes sortes de vexations, de persécutions, mais donc dans un rapport de visibilité et un rapport frontal. Alors que les musulmans, au contraire, sont vus comme des gens structurellement du dehors. Sur un plan théologique, ils prétendent dépasser le christianisme. Ils sont même couramment assimilés à des hérétiques, à des déviants, à des gens qui sont sortis du giron de l'Église. Et politiquement, ils sont vus comme des sujets d'État puissants, donc l'Empire ottoman, la Perse, donc des gens dans une position potentiellement de menace extérieure. Et de ce fait, il me semble, on ne saurait les considérer, ou on se refuse à les considérer comme des gens de l'intérieur, ce que sont plus facilement les juifs. Et donc, personnellement, c'est cette position structurelle qui me paraît expliquer que des mosquées n'aient pas été publiquement tolérées dans le paysage avant des périodes très tardives, extrêmement tardives, comme vous le savez, puisque même s'il y a eu des projets de mosquées à la fin du XIXe siècle, on a eu véritablement de mosquées qu'à partir de la grande mosquée de Paris, hein, après la Première Guerre mondiale, et à la rigueur, la mosquée pour les troupes coloniales musulmanes qui était à l'hôpital de Nogent-sur-Marne. Donc voilà pourquoi c'est cette situation d'extériorité structurelle finalement des musulmans qui peut expliquer qu'on ait fait comme s'ils n'étaient pas là ou comme s'ils ne faisaient que passer, hein, ces ambassadeurs, ces voyageurs transitoires dans la dénégation de processus d'intégration qui étaient parfaitement effectifs par ailleurs. Pour formuler les choses autrement, je dirais qu'il y avait une occultation possible de la présence des musulmans, alors que l'occultation de la présence des juifs n'était pas possible, ou en tout cas pas de la même façon. Du coup, à qui avons-nous affaire ces gens qui sont assignés finalement à une présence extérieure, assignés à n'être que des étrangers de passage. Je rappelle au passage qu'il y avait aussi, bien sûr, des musulmans de passage, notamment des commerçants. On est en train de redécouvrir la présence de commerçants musulmans en Europe occidentale. Là aussi, c'est un tabou historiographique qui saute. Pendant longtemps, on a pensé que le commerce en Méditerranée était entièrement dans la main des Européens, le commerce maritime et le commerce tout court. On a invoqué toutes sortes de raisons, la réticence des musulmans à aller commercer en Europe parce qu'on n'y trouvait pas de nourriture halal, par exemple, des obstacles de nature religieuse ou un manque d'esprit d'entreprise. Or, quand on cherche des commerçants musulmans, bon, on les trouve relativement facilement. Je ne dis pas que leur présence était massive, mais en tout cas, elle a été clairement sous-évaluée. Mais donc, pour en revenir à cette question de l'intégration ou de l'assimilation, le paradoxe, c'est que souvent, on ne perçoit la présence d'un musulman dans ces contextes qu'au moment où il cesse d'être musulman. C'est-à-dire qu'une grande part de notre documentation vient des baptêmes et des registres de baptême ou des certificats de baptême. Ce sont des documents qui nous donnent souvent des indications sur la vie que le néophyte a menée dans une communauté avant de demander à recevoir le baptême. Là, je vous donnerai un exemple très concret, très précis, celui d'un certain Charles Alik, qui est un Algérien dans les années 1630, qui a été pris sur des galères espagnoles, puis à un moment qui a été en détention à Sainte-Marguerite. Il réussit à s'échapper, il réussit à gagner Antibes. D'Antibes, il part par précaution, il part à Lyon, où il demande le baptême. Et il reçoit le baptême à Lyon en 1634 avec plusieurs parrains. Donc il a réussi à avoir des protections. Comment est-ce qu'il est allé d'Antibes à Lyon? Qui l'a aidé? En tout cas, il est baptisé à Lyon, et c'est par là que nous savons son histoire. Et ensuite, nous le retrouvons 7 ans plus tard en Bretagne, donc il a traversé toute la France. En 1643, il se marie avec une Bretonne de Landéda, donc un village breton. On ignore de quoi il a vécu pendant ces 7 ans. Et ce qu'on sait toujours par la documentation des baptêmes, c'est qu'il a eu 3 enfants, je crois, 2 garçons et 1 fille, qui eux aussi reçoivent donc le baptême et qui portent évidemment un prénom chrétien, mais dont il est indiqué qu'ils sont fils de Charles Alik, turc de nation. Donc il y a une référence à l'origine du père, qui se perd ensuite. Voilà. Et donc ce paradoxe que je voudrais mentionner et souligner, c'est que bien souvent nous ne nous apercevons que nous avons affaire à des musulmans qu'au moment où ils demandent le baptême. Alors pourquoi le baptême souvent tardif? Parfois un personnage ne demande à être baptisé que sur son lit de mort, ou alors on lui impose le baptême dans le moment où il n'est plus en état de refuser. Donc ce sont des situations un petit peu extrêmes, mais qui nous montrent qu'il y avait clairement une tolérance, et je dis ça de manière neutre, hein, sans jugement de valeur, qu'il y avait clairement une acceptation, une tolérance pour ces situations de coexistence avec donc des gens de religion musulmane. Pourquoi cette coexistence? Pourquoi cette tolérance? Je dirais que c'était parce qu'on était dans des moments, justement, d'histoire symétrique et d'histoire réciproque, et que sans doute beaucoup de, disons, de Français ou d'Italiens savaient très bien qu'un certain nombre de leurs coreligionnaires, parfois des parents proches, pouvaient de leur côté se retrouver prisonniers dans la régence d'Alger ou en Égypte ou ailleurs, et mon Dieu, être obligés de s'adapter pour survivre aux exigences locales ou à des situations plus ou moins exigeantes. Et donc, je pense qu'il y avait une certaine tolérance ou en tout cas l'idée que c'était pas la peine d'aller trop y voir de près. C'est la réciprocité de ces situations qui me paraît expliquer donc un apparent consensus pour fermer les yeux, pour accepter des identités flottantes ou incertaines, outre le fait que j'ai déjà mentionné que l'ensemble des systèmes identitaires de l'époque moderne demeuraient sous le signe d'une grande fluidité. Alors, pour conclure, je dirais que une évolution décisive va être l'extinction ou la raréfaction progressive de la course, c'est-à-dire de ces situations réciproques de précarité de la vie. Tant que les phénomènes de captivité imbriquaient le nord et le sud de la Méditerranée, mais aussi par voie terrestre, on a les mêmes phénomènes, les régions balkaniques, l'Autriche, l'Empire ottoman, l'Europe et le monde de l'islam vivaient une situation finalement d'interdépendance. On sait qu'en Europe, en Provence, les familles achetaient couramment un captif mort pour pouvoir l'échanger au cas où l'un des siens serait fait prisonnier. On vivait avec cette perspective qu'il était possible de se faire capturer sur le bord d'une côte en se promenant ou en allant travailler si on était marin. Et donc ce système de captif préventif s'est attesté dans des contrats de notaires. Ce qui va changer les choses, c'est le moment où finalement on arrive à une certaine sécurité des relations, des échanges. À partir du moment où le Turc ne fait plus peur, il peut conserver sans mal sa différence, et je dirais même mieux, il se voit assigné à la différence, il se voit même enfermé dans une différence. C'est notamment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle qu'on voit proliférer des cafés turcs, des bains turcs dans toute l'Europe occidentale, qui sont tenus par des orientaux. C'est une évolution vers un exotisme du turc qui est très sensible dans toute l'Europe, mais qui va prendre peut-être une signification particulière en France et en Angleterre, qui sont les deux nations qui vont développer précocement une politique coloniale à l'égard de musulmans, se retrouver en situation précoce de domination coloniale sur des musulmans. Alors, en Angleterre, ça commence avec, pour donner des dates, hein, ça commence, disons, en 1757, avec la conquête territoriale d'une partie du Bengale par la Compagnie des Indes orientales. Et donc, la Compagnie des Indes orientales, grande compagnie de commerce, amène désormais dans le pays des masses de marins indiens, bengalis et des domestiques, dont des musulmans. Donc il y a une subalternisation du musulman, mais du native, de l'indigène de manière plus générale. En France, la date marquante, ça va être 1798, avec l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Et on observe là à la fois un phénomène de fascination orientaliste, mais aussi une marginalisation culturelle du musulman d'origine, par le costume, par l'apparence, par le nom. Paradoxalement, cette place à part, donc dans la société, va permettre à ces gens d'avoir plus d'autonomie. Avant, ils disparaissaient dans le paysage, ils étaient assignés à assimilation. Maintenant, ils sont dans une position qui leur permet davantage de jouer les intermédiaires entre leur société d'origine et l'Europe. C'est une grande époque pour beaucoup de minoritaires juifs, arméniens, coptes, grecs, mais certains musulmans aussi vont devenir des intermédiaires diplomatiques, interprètes, mais aussi entrepreneurs. Je citerai rapidement ici le cas, par exemple, d'un certain Canales Oglou qui va faire faillite d'ailleurs. Il va essayer de développer le commerce de l'huile de pépins de raisin comme huile permettant un éclairage sans fumée en France. Donc, des figures d'entrepreneurs qui commencent. Il faut dire que le baptême demeure encore, malgré tout, une condition pour réussir socialement, pour réussir dans les affaires. Mais il y a de manière plus générale un phénomène de racialisation progressive des musulmans, d'exotisation, qui est un phénomène visiblement, qui n'est pas inhérent à l'islam, ce n'est pas l'islam qui se marginalise, c'est la position structurelle qui est la sienne en Europe, qui devient une position donc à part, plus détachée, qui finalement nous permet de mieux comprendre ce qu'est la place de l'islam aujourd'hui à la lumière de l'histoire. Merci.